Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va commencer tout de suite pour ne pas trop attendre. La séance donc aujourd'hui est consacrée à le titre « Y a-t-il un sens à la souffrance ou les limites de la patience ?» Et je vais d'abord voir dans une introduction pour, au fond, ouvrir le cours et ensuite on attaquera le vif du sujet en tant que tel. Mais j'ai préféré prendre du temps aussi pour faire une introduction. Alors, ça, on risque de déborder sur l'heure prévue. Je vous le dis tout de suite, ça sera la seule séance où ceci se passera. C'est parce que j'ai rajouté un peu une introduction qui n'était pas tout à fait prévue. Alors, le travail de la pensée contemporaine, celle conséquente avec l'esprit de son temps ou de son époque, s'est focalisé depuis, on va dire, une soixantaine d'années, on va dire depuis 1945, etc., sur deux questions, qui seront nos deux questions de fond cette année. Que s'est-il passé en ce siècle, dans le XXe siècle? Et la deuxième question, a-t-on assez appris sur la démesure de notre malfaisance? Donc, que s'est-il passé en ce siècle et a-t-on assez appris sur la démesure de notre malfaisance? Alors, le premier questionnement, que s'est-il passé en ce siècle, comporte immédiatement deux réponses. Soit vous dites non, il ne s'est rien passé, au fond, ou il ne s'est rien passé dans l'histoire, ou pour dire autrement, il ne s'est rien passé d'inédit, il ne s'est rien passé d'inouï, que le cortège de massacres, de violences appartient à la catégorie du déjà-vu, donc il n'y aurait pas de différence entre les anciens et les modernes, l'histoire œuvrant à l'identique, avec un éternel retour d'un même cycle de démesure que l'on a connu, sans ordre, sans signification, autre que l'invariable instinct du mal propre à l'humanité. Donc, soit il ne s'est rien passé, soit, évidemment, ce sera plutôt notre hypothèse, nous avons été confrontés, et on peut le dire maintenant avec une rétrospection toute hégélienne, à une nouveauté de l'événement. J'écris événement avec un grand E. Ce que je mets sous l'événement, c'est, au fond, Auschwitz, la Colima, Hiroshima, Nagasaki, et les guerres coloniales, etc., un certain nombre de choses qui ont traversé le XXe siècle, qu'on aura l'occasion de revoir. Soit donc il s'est effectivement passé à une nouveauté de l'événement qui a profondément bouleversé notre appréhension de l'expérience, et évidemment la compréhension du sens de celle-ci. Alors, s'il nous faut être à la hauteur de ce qui nous est arrivé, au fond, il nous reste à saisir d'abord la teneur de la rupture, s'il y a bien rupture entre un avant et après, les conditions de sa réalisation, de cette rupture, sa consistance, à la rigueur, d'irréversibilité, pourquoi nous avons atteint un point de non-retour, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf dans la situation historique, et puis aussi, qu'est-ce qui en fait sa singularité, et évidemment, quant à son ouverture sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir penser ensuite. Alors, on en arrive au deuxième questionnement, non pas que s'est-il passé, mais au fond, a-t-on assez appris sur la démesure de notre malfaisance? Si nouveauté il y a, donc, et peut-être le secours du travail de la culture, j'emploie le mot « Kulturarbeit » au sens de Freud, sens freudien, au fond, peut-être que le travail de la culture des anciens nous est dorénavant d'aucun secours. S'il y a nouveauté, au fond, on sent donc la nécessité de réorienter la pensée, réorienter l'action à partir de nouvelles méthodes, de catégories radicalement différentes. Alors évidemment, 65 ans, ce n'est sans doute pas assez, on n'a pas assez de recul encore pour faire tout ce travail, je crois, mais en tout cas, l'avancement est certain. Des réponses à la question du mal, puisque c'est aussi celle-là qui va nous occuper, de celui qu'il est possible à l'homme de faire, de celui dont il est capable aussi d'endurer, des seuils que nous avons atteints, ou dépassés. Bref, des réponses à tout ça ont été échafaudées et, au fond, ça nous console aussi de, aujourd'hui, la prétendue inutilité des sciences humaines et sciences sociales qu'on voit souvent invoquées par nos hommes au pouvoir. Au fond, on s'aperçoit qu'au contraire, la littérature, les arts et ces sciences humaines et sociales ont apporté beaucoup pour ce questionnement-là. Tous pourraient faire partie d'un vaste essai, on pourrait dire, un essai. Je crois que c'était le genre du XXe siècle, l'essai, de compréhension en tout cas de ce malfaisant XXe siècle. Quelles sont les questions? Comment qualifier le mal qui a pris racine? Est-il absolu, radical, extrême, banal même? On aura l'occasion de le voir. Est-ce qu'on peut les dénommer autrement? Est-ce qu'est arrivé le pire? Est-ce qu'on a dépassé des seuils? Est-ce qu'il y a une nouveauté radicale? Est-ce qu'on est capable de davantage? Est-ce qu'il y a une violence possible, déjà lisible dans tout ça, une violence génétiquement post-écologique, post-humaine? Et puis, évidemment, que faire pour s'en prémunir? Alors, ce second questionnement, il ne va pas plus de soi que le premier. Et plusieurs alternatives, là encore, s'offrent à nous par rapport à ce questionnement. Trois alternatives. Première alternative, soit on affirme d'emblée l'impossibilité d'approcher l'événement. C'est-à-dire, au fond, alors il y a beaucoup de variantes de ce discours-là, d'impossibilité d'approcher l'événement. Soit on analyse son caractère indicible, innommable, irreprésentable, l'incapacité, je cite par exemple Blanchot, d'un pouvoir parler à partir de l'impossible, donc l'incapacité d'un pouvoir parler à partir de l'impossible. On retrouve ça chez Georges Bataille, chez Marguerite Duras, etc., Dionis Mascolo, enfin, il y a toute une file de gens qui pensent ça. Où est presque imposé le silence du rescapé, ainsi évidemment que la surdité de ses interlocuteurs. Lui ne peut rien dire et les autres ne peuvent rien entendre non plus. Et donc on a à l'œuvre un déni de la rationalité représentative du langage. Le langage ne pourrait pas dire ce qui s'est passé, au fond. Alors évidemment, ce ne sera pas mon hypothèse, je ne suivrai pas ça. Je pense qu'au contraire, il y a peut-être place, voire même injonction, à perdurer dans une éthique du langage pour raconter, pour imaginer, pour représenter, pour évoquer l'expérience et soutenir évidemment les cœurs meurtris et les arracher à l'état de défiguration habituelle. Donc rien les arracher aussi à l'idée de blancheur d'écriture, de modalisation, etc., qui vise à renfermer souvent le langage sur lui-même pour, au fond, l'empêcher de dire quoi que ce soit sur le réel ou le signifié. Soit, deuxième réponse, non pas celle de l'indicible ou de l'innommable, etc., ou de l'impossibilité à dire quoi que ce soit, soit on affirme comme Claude Lanzmann, dans un tout petit texte assez elliptique, Claude Lanzmann, un réalisateur de Shoah, que vous trouvez dans le chez Folio, c'est la revue de française de psychanalyse qui avait fait ça, un numéro spécial sur le mal. Donc il y avait à la fin un petit texte de Claude Lanzmann, un texte très court. Il disait qu'au fond, la question du pourquoi de la Shoah, mais je ne comprends que celui-là, on pourrait le dire d'autres faits, au fond, cette question-là est obscène. Il y a l'obscénité de se poser la question du pourquoi, selon lui. Ou même de se voir poser la question de pourquoi on ne se la pose pas. Bon, je vais plus loin, mais c'est-à-dire... Donc tout est obscène, ne posons pas de questions, au fond, etc. Alors, évidemment, chez Lanzmann, il ne faut pas croire que... simplement qu'il fait sienne, au fond, la devise des nazis. Je vous rappelle la phrase, c'était « Hier ist keine Warum », ici, il n'y a pas de pourquoi. Donc, si on admet qu'il n'y a pas de pourquoi, effectivement, on est du côté des nazis, au fond... Mais pour, si on comprend bien son texte avec Claude Lanzmann, on sent bien que c'était en tant que créateur, comme d'image, de transmetteur, de ne pas se poser la question. Il ne fallait pas se poser la question, il ne fallait pas, au fond, être philosophe. Il ne faut pas viser une quelconque intelligibilité de l'événement, un savoir-vrai, etc. Il y avait un travail à faire avant. Donc pas de prérequis d'ordre philosophique, au fond, mais Claude Lanzmann se voulait un simple traducteur de ce qui s'était passé, dans ses films notamment. Alors évidemment, si son humilité est empreinte de beaucoup de justesse, reste que le cinéma est une pensée. Et ce qu'il a fait est une pensée aussi. Que ce serait nier toute la force même de son œuvre, au fond, que de prétendre qu'elle nous accorde, qu'elle nous donne pas un surcroît d'intelligibilité de l'événement, de ce qui s'est passé dans les camps d'extermination. Donc postuler le non-sens des événements du XXe siècle aboutit soit à reconnaître l'absurdité des choses, et donc l'absurdité du monde, à ce moment-là on n'a plus rien à dire, on s'arrête là, soit ça conduit évidemment au suicide de tous les témoins, ce qui souvent a été le cas aussi, soit ça conduit évidemment à la phrase par exemple de la femme de Job, dont dans le texte qu'on va lire et dont on va se servir aussi comme prétexte, où elle dit au fond béni ou maudit Dieu, et puis meurt. Au fond, il suffirait de rapidement en finir avec l'affaire. Alors, ni cette première voie, ni cette deuxième voie, il y en a une troisième, hein, ni la possibilité, ni l'idée qu'il n'y a pas de pourquoi et qu'il ne faut pas se poser de questions. La troisième voie, c'est celle qui a été bien pensée par Théodore Adorno, Adorno, philosophe du XXe siècle aussi. Alors, Adorno, il a le privilège d'avoir posé plusieurs questionnements en ce qui concerne notre rapport au XXe siècle. Il y en a à peu près deux, enfin trois, on va voir, qui m'intéressent à partir de lui et qu'on doit se poser aussi. Le premier, il est exprimé dans un passage maintenant largement commenté de son ouvrage « La dialectique négative » où il affirme, je cite, « Après Auschwitz, aucune poésie, aucune forme d'art, aucune affirmation créatrice n'est plus possible. » Alors, peu importe ici le constat, parce que ce n'est pas l'intérêt du cours, mais le constat concernant ici la poésie, qui comporte et sa part de vérité et sa part d'erreur. Quelle part de vérité dans « Plus de poésie après Auschwitz » au fond? L'idée qu'il y a une mièvrerie maintenant de la poésie, de la littérature engagée, en général, que donc tout ce qu'elle dit, au fond, ça n'engage qu'elle. Qu'il y a une ineptie d'en faire un spectacle des événements du XXe siècle, une inacceptabilité même de la stylisation de tout ça, de la transfiguration qui en fait perdre son horreur, et puis surtout l'impossibilité de toute réconciliation grâce à l'art de l'événement. Donc là-dessus, Adorno a raison. Et en même temps, il y a une erreur aussi chez Adorno dans cette phrase-là, parce qu'il y a quand même une poésie qui a continué à parler de l'événement. Il y a quand même une philosophie, une sociologie, etc., certes désacralisée, mais qui, mise à l'épreuve, a été renouvelée aussi par ce qui s'est passé au XXe siècle. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée aussi du mutisme encore. Il faut rester muet face à l'événement, parce qu'on serait confronté à un extrême du possible, à un excès du mal, qui nous empêche, là encore, toute réconciliation possible avec ce qui s'est passé. Il le dit encore aussi dans Notes sur la littérature, dans d'autres textes, même s'il est revenu un petit peu à la fin de sa vie sur l'idée qu'il y avait quand même de la poésie possible après Auschwitz, toujours est-il que c'est ça. Alors, chez Adorno, ça va plus loin que l'idée que la seule poésie ou la seule littérature est possible. C'est aussi l'idée qu'il vise aussi l'idée de critique culturelle, en général. Le mot qu'il emploie, c'est « Kultur critique », mais c'est l'équivalent de ça, c'est-à-dire faire une critique sur les œuvres de culture, quelles qu'elles soient. Là, je cite sa phrase, « Toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique urgente, n'est qu'un tas d'ordures. » Donc, voilà, même pas simplement la culture elle-même, il y a la critique sur la culture elle-même, qui est aussi un tas d'ordures. Peut-être qu'il s'introduit d'ailleurs là-dedans lui aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas simplement de critiquer les pouvoirs de la poésie, ce qu'on a vu, mais il s'agit même de supprimer toute idée de consolation, de compensation. On ne sauverait plus le langage. Et le langage ne sauverait plus rien non plus, au fond. Et le reste, ça sera du bavardage sur des petites vies, sur du quotidien, etc. Mais on ne dira plus rien tant qu'on n'aura pas trouvé, au fond, autre chose. Alors, pour Adorno, au fond, pourquoi il faisait cette critique et de la poésie et de tout travail de la critique culturelle, ou de critique en général, même, on va dire même sociale, etc. C'est parce qu'il estime que la culture est responsable de l'événement, c'est-à-dire est responsable de la catastrophe. C'est ce qu'il appelle la dialectique de la raison. Hein. La dialectique de la raison, c'est-à-dire celle issue de la philosophie des Lumières, le grand projet de progrès contemporain, a abouti à l'autodestruction. La raison comme maîtrise de la nature, comme maîtrise de soi, est arrivée à maturité et nous en sommes dans un état d'autodestruction permanent, en tout cas pour lui. C'est tout le processus donc de la modernité rationalisatrice, économique, instrumentale, civilisationnelle, qui aboutit au pire. Alors, je note que simplement là aussi, déjà, on a une première explication de l'événement. Quelqu'un nous dit déjà, ce qui s'est passé, ça vient de très loin, ça vient de la dialectique de la philosophie des Lumières, c'est tout le projet moderne qui aboutit au pire. Donc, au moment où il nous interdit de discuter sur l'événement, lui-même nous donne une réponse déjà. Bon, c'est peut-être le paradoxe, mais c'est une réponse intéressante. Alors, quelles sont les réponses et en quoi ça va nous intéresser? Quelles ont été... Alors donc, soit... On suit au fond l'idée d'un mutisme, l'idée d'une impossibilité, d'une indécibilité, d'une indicibilité ou d'une obscénité d'en dire quoi que ce soit, soit au contraire, on essaye d'apporter de la compréhension ou de l'explication. Alors, quel type d'explication a surgi, et on va voir comment on s'inscrit aussi dedans. Premier type d'explication causale, donc celle au fond d'Adorno, si on voulait bien, on pourrait l'appeler une explication causale historiale, qui vient de l'histoire, qui explique que l'histoire a produit cet événement-là. Ce qui est incriminé ici, on voit bien, c'est le processus de civilisation, au sens de Norbert Elias, hein, tout ce qui nous a rendus polis, gentils, cultivés, a abouti au pire, au fond, c'est ça l'idée. Le travail de la culture, des sciences, des techniques occidentales a abouti au pire. La meilleure définition de cette critique-là, vous la trouvez par exemple chez George Steiner aujourd'hui, dans un petit livre qui s'appelle Note pour la culture, c'est-à-dire Dans le château de Barbe Bleue, c'est un petit très intéressant, sorti dans les années 70, où il remet en cause le lien entre civilisation et sagesse. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru qu'au fond, tout le travail de l'éducation, je ne parle pas simplement de l'instruction, hein, mais le façonnement de l'intellect, de la sensibilité, du corps, etc., tout ça, on a cru que ça contribuait à l'avènement d'un être plus civilisé, plus épanoui, plus raisonnable. Or, il a fallu déchanter. La somme de cette énergie civilisationnelle aboutit à trois choses. D'une part, elle n'a pas empêché la venue du pire et de la pire des barbaries, donc elle a été impuissante. Deux, elle a même su coexister avec elle. Vous savez, toutes les histoires où les chefs de camp, là, le soir, allaient pleurer dans une pièce de théâtre, dans un opéra, puis le lendemain se retrouvaient dans leur camp et ils n'éprouvaient absolument pas de sentiments. Bon, la culture pouvait très bien continuer à vivre avec la pire des barbaries. Et puis trois, pire même, la culture a peut-être favorisé la barbarie. Elle l'a générée en son sein, elle l'a nourrie, elle aboutit en démesure. Alors, ce type d'explication causale qu'on rencontre dans pas mal d'endroits, s'est décliné souvent, avec même quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il est devenu destinal, c'est-à-dire qu'il a même construit une destinée en disant « si on continue, ça va être encore de pire en pire ». Donc on a essayé même d'aller plus loin en disant « ça va vers ça ». Destinal dans le sens où c'est tout le projet de moderne qui ne pouvait aboutir qu'à ça. Quand vous lisez toutes les analyses post-foucaldiennes, on va dire, celles qui suivent de Foucault, aujourd'hui chez Giorgio Agamben, chez Alain Brossa, etc., on pourrait multiplier, vous avez eu des cours, je pense aussi là-dessus, on voit bien l'idée de la survenue des désastres vient d'une immense biopolitique qui s'est installée au cours de l'histoire, d'un État, au fond, qui a pris en charge ses populations, qui a eu droit de vie, droit de mort, au fond, on va dire, sur tout le monde, qui a opéré un partage du sensible, dans les mots de Rancière, et qui a appliqué ses logiques réductrices sur les populations dont il a en charge. Et donc, il suffisait de mettre à plat ce dispositif sécuritaire, sanitaire, hyper violent aussi, pour nous dire, au fond, voilà, tout ça a abouti méthodiquement à la catastrophe du XXe siècle. Donc on voit une logique historique, historiale, destinale, hein, puisque tout devait y mener. Donc on a une logique historiale globale, une logique historiale destinale, au fond, si on va les appeler comme ça, occidentale, qui a survenu à tout ça. Alors, il y a aussi, à l'intérieur de ces explications, des données plus historiques, par exemple, donc on a fait l'étude du racisme, le racisme a conduit à ça, l'antisémitisme a conduit à ça, le capitalisme a conduit à ça, l'impérialisme, l'orgueil prométhéen, bref, à chaque fois, on prend aussi un critère censé expliquer la cause de l'événement, de la catastrophe. Elles ne sont pas fausses, toutes ces analyses. Elles sont d'ailleurs d'autant plus intéressantes au moment où on met en correspondance tout ça. Ce qui est souvent peu fait, mais c'est là où c'est le plus intéressant, où toutes ces causalités explicatives nous permettent de cerner au plus près la teneur de la chose étudiée, de l'événement. Alors, il y a d'autres aussi explications causales, plus problématiques, qui insistent sur des déterminations différentes, sur des déterminations qui ne sont pas sociales, qui ne sont pas intellectuelles, idéologiques ou économiques, comme on a pu voir rapidement, mais des déterminations, par exemple, spirituelles. Vous lisez, par exemple, Elie Wiesel, même George Steiner aussi, André Néer, par exemple, l'identité juive, ou d'autres textes comme ça, etc. J'aurais pu amener tous les autres aussi. Là, cette fois, on fait du mal, advenu au XXe siècle, un aspect démoniaque, diabolique. Il y a quelque chose de diabolique qui s'est passé, de démoniaque. L'homme est exilé de son empreinte religieuse, dans un monde sécularisé, de la déréliction, vous connaissez les termes heideggeriens, etc. Et donc, on fait intervenir des fois des puissances supérieures, surnaturelles, la providence divine, Dieu nous a punis, etc. D'autres explications comme ça, si c'était normal que le juif, bon, etc., j'en laisse passer. Il y a une histoire de l'esprit aussi, de côté hegelien, c'est une étape. Bon, vous voyez, en fait, ces explications aussi, cette fois, des explications causales, mais d'ordre spirituel, qui ont pu expliquer aussi l'événement. Bon. Évidemment, tout ça est intéressant, mais nous, ce n'est pas tout à fait ces voies-là qu'on va poursuivre, non plus. Mais il faut s'inscrire dans ce débat, parce qu'il est important, parce qu'on voit là où il s'est dessiné, les formes qu'il a pris, et évidemment, les réponses qu'on doit apporter à toutes ces questions, voire même des fois les contredire dans certains cas. Il faut penser l'événement. Il faut continuer à penser l'événement, en tout cas, et on va suivre aussi ceux qui ont essayé quand même d'apporter des explications. Ça veut dire aussi que la théorie de la causalité est inapte, peut-être, en tout cas est incomplète, pour rendre compte du caractère inédit de la notion même d'événement, à la rigueur. Alors, il y a deux voies, encore. On peut très bien dire, il vaut mieux pas penser du tout. Parce que si on pensait, c'est par exemple la réponse de Hans-Peter Sloterdijk, donc intellectuel allemand important aujourd'hui, où il dit « la pensée du XXe siècle est toujours une pensée du meurtre. Le moderne, c'est celui qui est toujours sur le lieu du crime. » Au fond, il a toujours une bonne définition. Il a toujours été sur le lieu du crime dans sa vie. Et donc, à quoi tout cela peut-il servir de penser la chose ? Alors, cette position, elle ne fait pas simplement signe vers la paresse ou vers la résignation, du genre « c'est comme ça, c'est tragique, ça a eu lieu, bon, on n'y revient pas, c'est pas la peine, c'est arrivé », ou du genre « à chaque jour suffit sa peine, voilà, on a nos problèmes, c'est des vieux problèmes, etc. » Donc, très vite, on pourrait régler la chose aussi comme ça, ça appartient à ça, ça appartient à une espèce de pessimisme ambiant, on ne va pas y retourner. Mais cette position aussi, elle interroge le pouvoir de la pensée. Parce que la question centrale, c'est est-ce que la pensée affecte ce dont elle se dégage ? Est-ce qu'elle modifie en retour cette expérience ? Est-ce qu'elle modifie la vie, la pensée ? Est-ce que la pensée sert à quelque chose, au fond ? C'est ça la question qui est posée derrière. Est-ce que si elle comprend ce qui s'est passé et le mal à l'œuvre, est-ce qu'elle va pouvoir changer des choses ? Ou est-ce qu'au fond, ça ne changera rien, ça sera toujours ainsi ? La vraie question, elle est là. Alors évidemment, c'est bien la question de penser le siècle qui nous intéresse, et le mal qui a eu lieu. Et en l'occurrence, nous, le détour par une lecture renouvelée du livre de Job, par un certain nombre d'auteurs, et puis aussi ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Il y a bien une injonction de penser, mais comment lui faire sens ? Je crois qu'elle est résumée dans une phrase de Merleau-Ponty. En tout cas, moi, il me semble qu'elle est bien résumée dans une phrase de Merleau-Ponty. Voilà ce que dit Merleau-Ponty, c'est dans un livre qui s'appelle « Les aventures de la dialectique ». Bon, c'est le moment où il est en train de sortir du communisme, alors il est en train aussi de dire qu'est-ce qu'il faut penser maintenant. Voilà ce qu'il dit. « À l'épreuve des événements, nous faisons connaissance avec ce qui est pour nous inacceptable. Et c'est cette expérience interprétée qui devient thèse et philosophie. » Donc, la philosophie doit élaborer une reprise de l'expérience. Elle doit prendre une reprise interprétante, comme il dit. Les autres réponses ne sont pas bonnes. Alors, l'idée de Merleau-Ponty, elle a été bien exprimée, je crois aussi, par Hannah Arendt. J'en avais déjà discuté avec vous quand on avait certains d'entre vous qui étaient là, quand on a fait le cours sur la désinvolture. Dans un texte qui s'appelle « Compréhension et politique », Hannah Arendt, qui est dans un gros livre qui s'appelle « La nature du totalitarisme », elle nous disait, au fond, qu'est-ce que c'est que la compréhension ? La compréhension, ce n'est pas la connaissance scientifique. C'est-à-dire, il n'y a pas que le principe de causalité, au fond, qui compte, ce qu'on a critiqué tout à l'heure. Ce n'est pas l'information exacte. C'est-à-dire, refus de l'obsession de scientificité absolue, etc. C'est intéressant, mais ce n'est pas non plus forcément le plus important. C'est une activité sans fin, comme elle dit, qui nous permet de composer avec la réalité, de nous réconcilier avec elle et de nous efforcer de nous sentir chez nous dans le monde. Alors évidemment, elle propose cette méthode pour le comprendre le totalitarisme, elle a consacré une grande partie de son activité à cette compréhension-là, C'est-à-dire que la compréhension cherche à offrir du sens, à nous orienter, avec cette idée que le monde moderne, précisément, comporte de l'entièrement nouveau, du radicalement inédit, et qu'on est perdu. Et que si on en reste là, on reste un imbécile heureux, au fond, et qu'il faut quand même aller plus loin. C'est ça l'idée. Et comme elle le dit, à la fin de ce texte, nous ne sommes contemporains que de ce que notre compréhension réussit à atteindre. Donc, si on veut être compréhensif au point des choses, il faut d'abord avoir compris, au fond, les choses les plus importantes qui nous entourent, en tout cas, qui nous déterminent. Donc, il en va pas seulement de la capacité de comprendre, mais il en va de la capacité aussi de juger et d'exister, au fond, c'est ça l'idée, à être contemporain de notre vie, de notre époque, de notre espace commun avec les autres, de notre institution du lien social. Il en va aussi, pourquoi penser l'événement, de l'impératif de non-répétition de l'événement, bien sûr. Et là, on le connaît bien, hein, plus jamais ça, au fond. En 1966, dans une conférence radiodiffusée, Adorno s'interrogeait sur cette tâche. Vous trouvez ça, son texte, dans Modèle critique, c'est un livre qui s'appelle Modèle critique, Adorno, un texte qui s'appelle Éduquer après Auschwitz. Voilà ce qu'il disait. Exiger qu'Auschwitz ne se reproduise plus est l'exigence première de toute éducation. On ne sait pas encore assez. Ce fut le type de barbarie contre laquelle se dresse toute éducation. Et la barbarie subsistera tant que dureront les conditions qui ont favorisé la rechute. Alors lui, il savait qu'on aurait du mal à changer les conditions objectives. Ça, la pensée ne bouleverse pas le monde toujours, mais au moins on peut agir sur les individus. Et il disait, il faut chercher les racines chez les bourreaux et non pas chez les victimes. Alors, personnellement, je pense qu'il faut faire les deux. On a tout intérêt à lire les récits des victimes comme les récits des bourreaux, même si, d'ailleurs, les récits des bourreaux sont assez rares. On a tout intérêt à écouter, au fond, ce que peuvent en dire chacun sur le mal subi ou le mal commis, et essayer de se mettre à la place, même si c'est proprement souvent inconcevable de se mettre à la place de ces personnes. Voilà ce que disait Adorno, ce qui est nécessaire, c'est que le sujet fasse retour sur lui-même, on a besoin d'une réflexion critique sur soi, il faut mettre en évidence les mécanismes qui produisent les hommes capables de telles actions. Donc, il faut aller voir les bourreaux, bien sûr, mais il faut aller voir aussi les victimes. Peut-être qu'on en apprendra beaucoup plus. Alors, je rentre maintenant dans le sujet réel. Il me fallait cette introduction quand même pour bien savoir où on allait. Au fond, je pensais le contrat un peu de travail, le contrat de questionnement général qu'on en aura. Il se trouve qu'après 1945, précisément, au regard de l'événement et du pire advenu, un grand nombre de penseurs ont cru bon, parmi les plus essentiels d'entre eux, ont cru bon pour répondre à la question du pourquoi, pourquoi ce mal, pourquoi ces mots, ils ont cru bon opérer un retour, un détour, on va dire, un détour herméneutique, hein, d'interprétation, l'herméneutique c'est l'interprétation, d'un texte issu de la Bible, le livre de Job, et d'en faire le prétexte pour une pensée renouvelée de ce qui s'était passé au XXe siècle. Mot très rapide, parce que mon but, ça ne va pas être de faire une exégèse du texte de Job, on va s'en servir aussi comme un prétexte. Il est bon de le lire, mais si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas très grave non plus. On en verra certaines parties. C'est un texte qui a été écrit entre le 10e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Il comporte à peu près 5 couches de composition. Est-ce qu'il a autant d'auteurs? On ne sait jamais, c'est vraiment une parole révélée. Hein, donc on ne sait pas qui sont les auteurs. L'auteur est divin, normalement, mais en tout cas, on ne le sait pas. C'est un texte sacré, très poétique, qui invite à la ferveur, à l'ivresse transcendante, hein, qui excite les sens, qui excite l'imagination critique. Je ne reviens pas sur sa construction, je vous renvoie, il y a un certain nombre de livres exégétiques, si vous trouvez ça très rapidement, pourquoi, par qui, quand viennent les couches, on aura l'occasion d'en reparler, etc., mais ce n'est pas le plus important. Alors pourquoi lui? Pourquoi ce texte-là a été l'objet d'une telle reprise approfondissante et interprétante, si on reprend les mots de Merleau-Ponty. Qu'est-ce que nous dit, par exemple, René Girard, philosophe aujourd'hui, que savons-nous sur ce texte? Pas grand-chose. Apparemment, parce qu'on ne savait pas grand-chose sur ce texte. Georges Steiner nous dit, texte qui nous plonge dans un abîme de perplexité. Donc, apparemment, il y a encore des choses à dire. Qu'est-ce que nous dit Tony Desgris? texte violent, d'une violence qui a été occultée par la tradition. Il dit qu'il faut arracher ce texte à la tradition exotérique, retrouver le sombre éclat d'un texte chargé de glose qui attend que l'on actualise sa puissance utopique. Pour lui, c'est un texte, un outil politique. C'est le texte qu'il a écrit. Il a écrit un très beau texte sur Job. On en reparlera parce que ce n'est pas aujourd'hui l'essentiel de la chose, mais texte très important sur Job lors de son emprisonnement, donc ça l'a aidé aussi à activer sa vie politique, etc. Bon. Qu'est-ce que nous dit Simone Veil aussi, dans un texte qui s'appelle « L'amour de Dieu et le malheur » ?« Le livre de Job, d'un bout à l'autre, est une pure merveille de vérité et d'authenticité. Au sujet du malheur, tout ce qui s'écarte de ce modèle est plus ou moins souillé de mensonges. » Le malheur nous est donné dans ce livre-là, il écrit ça en 1942, quelque temps avant sa mort. Bref, il semble donc que le religieux ait quelque chose encore à nous apprendre. Le religieux même primitif, au fond, est à nous apprendre sur nos fonctionnements contemporains, et vice-versa, que nos yeux de contemporains peuvent mieux lire ou lire autrement ce texte en actualiser des étincelles utopiques, comme disait Tony Negri. Donc il faut entendre sa part de vérité, et ça nous permettra peut-être aussi de mieux comprendre le sacré, notamment de la séance prochaine, mieux comprendre aussi le religieux et un certain nombre de choses. Alors on aura quatre problématiques qui seront nos quatre séances, enfin dont celle d'aujourd'hui, dont je vous ai dit qu'elle allait être un peu plus longue à cause de ça. Première thématique qu'on va aborder maintenant, le degré de souffrance atteint a-t-il changé quelque chose du monde? Peut-on assigner un sens à cette souffrance, ou à la souffrance en général, lui apporter des réponses? Est-ce qu'on peut penser une éthique de la souffrance, reconsidérer l'importance des souffrances, ou au fond, est-ce qu'il faut passer à autre chose? Deuxième grande interrogation, la semaine prochaine, quel Dieu a pu laisser faire cela? Y a-t-il place encore pour une théodicée, c'est-à-dire une défense de Dieu, après l'événement? Où sommes-nous aux frontières de l'athéisme? Et ce texte en est-il aussi une des définitions? Troisième interrogation que nous aurons ensemble, peut-on penser une anthropodicée, c'est-à-dire doit-on défendre l'homme encore? C'est-à-dire que nous a révélé ce siècle sur les capacités de l'humain à nuire ou au contraire à protéger son prochain? Quels furent les mécanismes de haine, de la violence démesurée, mais aussi quels furent les moments de bonté? De quelle justice l'homme a-t-il su faire preuve? On verra aussi ces aspects-là. Puis dernière séance, doit-on désespérer de l'agir éthique et politique, surtout politique? De qui doit-on attendre le salut? De quel messianisme est-on porteur? Parce que peut-être que le salut vient de nous. Ou doit-on au contraire penser une sagesse contemporaine et ne pas penser politique en général? On verra que certains aussi ont défendu ce type d'idée. Bien, donc, entrons tout de suite dans l'idée de la souffrance. On va faire deux parties, de la souffrance au pourquoi de la souffrance, on va dire comme ça. Il fallait d'abord nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Alors je vais partir d'un auteur pour essayer de voir pourquoi il faut commencer par la souffrance, pourquoi c'est le thème premier. Cet auteur, c'est Emmanuel Lévinas. Lévinas s'est très peu exprimé sur, on va dire sur Auschwitz. Quand je dis Auschwitz, c'est les camps d'extermination, c'est la solution finale, c'est tout ce qui s'est passé. Il s'est peu exprimé sur les monstruosités du XXe siècle. Il avait été très concerné de manière familiale, etc. Il y a seulement deux textes où il le fait, dont un texte qui va m'intéresser, qui s'appelle « La souffrance inutile ». Là, je vous le renvoie. Vous pouvez le lire dans un texte qui s'appelle « Entre nous ».« Entre nous », essai sur le penser à l'autre, en poche. Donc, Emmanuel Lévinas, « Entre nous ». Dedans, il y a le petit texte sur la souffrance inutile. Il a fait un autre entretien dans un numéro spécial sur la souffrance qui reprend en gros ces idées-là, même s'il y apporte encore des petites corrections intéressantes. Qu'est-ce que nous dit Emmanuel Lévinas? Il insiste sur la notion de souffrance, il nous dit qu'il faut commencer par là. Il dit « C'est une haute pensée qui est à l'honneur d'une modernité encore incertaine, encore clignotante, qui s'annonce à l'issue d'un siècle de souffrance sans nom, mais où la souffrance de la souffrance... La souffrance pour la souffrance inutile de l'autre homme, la juste souffrance en moi, pour la souffrance injustifiable d'autrui, ouvre sur la souffrance la perspective éthique
de l'interhumain. Donc, pour repenser une éthique, selon lui, il faut partir de la souffrance. Une éthique qui ne partirait pas de la souffrance, il y en a aujourd'hui, hein, je pense à celle de Badiou, etc. Une éthique qui ne partirait pas, en tout cas pour l'ordre de la souffrance, manquerait ce qu'il faut dire du XXe siècle, au fond, manquerait la nouveauté ou l'inédit, au fond, manquerait la vérité des choses. Donc, au fond, on sent qu'à cause des cruautés de ce siècle, à travers ou malgré elles, au fond, peut s'élever une éthique nouvelle dans cette attention. Il nous dit même, peut s'affirmer le nœud même de la subjectivité humaine au point de se trouver élevé en un suprême principe éthique jusqu'à commander les espoirs et la discipline pratique de vastes groupements humains. Donc, on voit qu'il s'agit de penser avec la souffrance. Nous, évidemment, on va l'étendre à toutes sortes de souffrances, pas seulement, on va dire, à la souffrance du XXe siècle, même si, mais à la question de la souffrance en elle-même, et de voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Donc, on va procéder à ce qu'on appelle une phénoménologie de la souffrance, ou suivre en tout cas ce qu'un certain nombre d'auteurs, à partir d'ailleurs du livre de Job, ont essayé de réfléchir là-dessus. C'est ce que fait Lévinas à partir du texte de Job, c'est ce qu'a fait Philippe Nemo, c'est ce que fait aussi Paul Ricoeur dans un texte qui s'appelle Le Mal, etc., etc. Un grand nombre d'auteurs vont s'emparer, Michel Henry, du thème de la souffrance à partir du livre de Job et réfléchir dessus. Ce qui nous est requis ici d'éclairer, c'est la compréhension de l'humain en tant qu'être capable de subir ou d'endurer la souffrance. Alors, il faut faire un distinguo entre souffrance ou entre douleur, souffrance et malheur. Tous disent que ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'être juste à la rigueur avec les mots face à ça. D'abord, on réserve le terme de douleur à des affects qui sont ressentis dans des organes bien particuliers du corps, voire même dans le corps tout entier. La douleur, donc, est particularisée, c'est un état transitoire, au fond, d'absence de plaisir, on va dire. Donc, il peut y avoir aussi une douleur au cœur même de la logique du désir. C'est-à-dire, par exemple, il y a un sens à la douleur de l'enfantement. C'est transitoire, on sait qu'ensuite, le bonheur sera là, bon, etc., etc. Donc, la douleur est transitoire, elle est particularisée dans le corps en général. Alors, quand on regarde Job, effectivement, notamment le prologue, c'est le texte qui nous intéresse le plus, on voit très bien que Job nous met en scène une simple souffrance physique au départ. Au début, même d'ailleurs, on ne le touche pas directement. Quand Dieu, après un pacte avec le diable, on va dire quelque chose comme ça, ou un pari, ou en tout cas un essai, une épreuve, essaye d'éprouver le plus juste d'entre les siens, qu'est-ce qui lui arrive? On touche d'abord ses biens extérieurs. Les bâtiments, ses récoltes, son bétail, ses domestiques, etc. Et puis évidemment, cela devient plus problématique quand on commence à tuer ses enfants, sa propre chair, on va dire. Et puis, évidemment, quand ça touche sa personne elle-même, son corps, lèpre tuberculeuse, chair sûr, suppuration, vous avez peut-être lu le texte, on en avait parlé, en tout cas. Il y a beaucoup de descriptions de tout ça. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aussi dans le prologue? C'est que tout de suite, Job, généralement, apporte une réponse à cette souffrance, cette première souffrance du corps. Il y a le réflexe stoïcien. Je pense que vous ne connaissez pas les stoïciens, mais si on veut, il y a un réflexe stoïcien d'endurer tout ça, de dire au fond c'est pas si grave, je suis touché extérieurement, je ne suis touché que dans mon corps, mais je suis encore en vie au fond, c'est pas si grave. Alors nous en tant que modernes on a beaucoup de mal avec ça, parce qu'on a l'impression qu'au contraire nos biens sont le prolongement de nous-mêmes, on touche, je sais pas moi, on casse une vitre dans notre voiture, oulala, c'est un drame tout de suite, ça va pas. Enfin non, je plaisante, mais c'est un petit peu ça. Bon, on nous vole quelque chose, oulala, notre vélo et tout, bon, ça devient traumatique, etc. C'est quoi? C'est du vol, c'est cambriolage. Donc on voit que pour nous, c'est encore plus difficile que pour lui. On n'est pas si stoïcien, mais en tout cas, on a ça. Évidemment, quand on commence ce crescendo permanent, c'est ça aussi que l'idée de Job dit, c'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à toucher les biens, vous finissez par toucher aussi petit à petit l'entourage, les corps, etc. Donc il y a un crescendo de la violence, et dont on voit bien que le XXe siècle a été celui-là, hein, la destruction généralisée, qui finit par toucher face à tout. Est-il si facile de se déposséder de tout? Il faut avoir une sacrée dose de sagesse, hein, face à ça. Quelle est la réponse de la sagesse en général, et de la sagesse stoïcienne, et celle de Job aussi dans ce texte-là? Au fond, on est mortel, donc bon, il faut bien accepter qu'à un moment donné, quelque chose nous touche. Le monde reste bon, en général, ça m'arrive à moi, tant pis, bon, ça serait ça la bonne réponse. Hein. Ce qui est très intéressant avec le livre de Job aussi, c'est de voir la rapidité aussi avec tout ça. La manière dont la souffrance peut rapidement vous toucher complètement et intégralement, sans que vous vous y attendiez. On a eu ça avec Jean Grenier il y a 2-3 ans. Jean Grenier, il suffit d'une rupture d'anévrisme, effectivement, votre vie bascule. Tout bascule. Donc précisément, il y aura une sagesse à voir avec ça, qui n'est pas toujours, bien sûr, évidente. Vous avez une pièce de théâtre d'un dramaturge israélien, dont ils ont joué une pièce il n'y a pas très longtemps, là, au Célestin. Pas celle-là, mais... Enfin, je sais qu'elle a été jouée ailleurs, d'ailleurs, je crois, à Oulin, ou, il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas pu aller la voir. Ça s'appelle Les Souffrances de Job. Et c'est une pièce de Hanok Levin. Et Hanok Levin montre, avec beaucoup de drôlerie aussi ça, mais l'idée qu'en 5 minutes, tout peut basculer, tout peut changer, on peut se retrouver, au fond, complètement nu. Alors, la première réponse face à cette souffrance-là, en tout cas, c'est la sagesse à distance, l'entendement adulte qui sait prendre de la distance et qui raisonne. Qu'est-ce que dit Job? Alors, je vais vous dire à chaque fois les paragraphes et puis les versets, enfin donc en 1.20, il dit « Nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai, Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. » Au fond, il accepte le sort qui lui est fait, grande sagesse, il lui arrive la pire des choses, mais il m'a donné, il a repris, c'est comme ça. Alors évidemment, cette nudité, elle nous interroge. Hanok Levin le montre d'ailleurs, il fait parler Job dans son texte, Les Souffrances de Job. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu ma mère est sortie du ventre de sa mère, nu nous sortons l'un de l'autre et tout frissonnant, nous formons une longue file nue. » Puis la phrase c'est « Comment vais-je m'habiller ?» demandait ma mère le matin, etc. Donc c'est drôle et en même temps on sait ce que c'est que les fils des gens nus, ce que ça a été pendant les guerres, etc. Donc il faut en rire. Hanok Levin a cette qualité-là et en même temps malheureusement on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la nudité c'est l'obscénité, mais c'est le pire. Et à ce moment-là, quand il lui arrive des tas de choses, Job se met nu aussi, déchire son vêtement. Bon, c'est un rituel à l'époque religieux. C'est le rituel imposé aux morts du Sheol. Et il observe les rituels de deuil, etc. Mais on sait aussi que la vie nue, c'est la mauvaise vie. Les livres là, de Giorgio Agamben, lorsque l'on est réduit à sa nudité, c'est la chute aussi, hein, c'est le péché originel, c'est la pire des choses. Nous n'avons plus, avant dans le paradis, nous étions revêtus du vêtement de grâce, hein, nous ne l'avons plus maintenant, on est obligé de se recouvrir hein, de figues, de feuilles de figues, etc., de peau de bête, etc., mais ça devient la chair, ça devient ce qu'il y a de pire en l'homme, précisément, hein. C'est la vie nue des camps, etc. C'est ça la première, la pire humiliation, au fond, qui peut arriver. Restons-en donc dans la douleur, cette douleur elle est de cet ordre-là. La douleur c'est ce qui incarne le moment où il y a refus de la conscience, sa négativité, le non par excellence, c'est là où la conscience dit non au fond. Lévinas nous dit ça, il faut partir du mal dans sa cruauté imaginaire et concrète, du mal physique dans son immédiateté, de ma douleur, puisque tout mal s'y réfère et s'y souffre précisément. C'est pour ça qu'il est très difficile aussi de comprendre la douleur de l'autre, voire même impossible de comprendre la douleur de l'autre. Surtout quand on en a épargné. C'est le reproche que va faire Job à tous ses amis qui viennent lui dire « Tu sais, c'est pas si grave, ou tu l'as un peu mérité, etc. et tout. » Job refuse évidemment tout de suite ces réponses-là. Vous le trouvez en 16.4, comme des références de cette manière-là. Je vous le lis comme ça. « Oh, moi aussi, je saurais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je pourrais vous accabler de discours en hochant la tête sur vous, vous réconforter en paroles, puis cesser d'agiter les lèvres. Mais quand je parle, ma souffrance ne cesse pas. Si je me tais, en quoi disparaîtrait-elle » Donc, il les attaque au fond de dire vous pouvez toujours parler, etc., mais vous ne pouvez pas vous mettre à ma place. C'est facile quand on est le spectateur de parler de la douleur, mais évidemment quand on est dedans, ce n'est pas le cas. On a des intermittences de lucidité et puis ça revient en général. Donc c'est ce qui s'oppose à la conscience en tout cas. Alors c'est pour ça qu'il faut peut-être passer au cran supérieur en parlant de souffrance. La souffrance, c'est comment dire, il faut réserver le terme de souffrance à des affects qui sont ouverts, eux, à la réflexivité, c'est la réflexion, au langage, au rapport à soi, au rapport à autrui, au questionnement. La souffrance, elle commence à mettre des mots sur les choses. La douleur ne le fait pas. La douleur est dans le silence, au fond. La souffrance, c'est le moment où on commence à mettre des choses. Je note que d'ailleurs, notre vocabulaire n'est pas très strict en général quand on emploie. On déclare qu'on souffre d'une rage de dents et on parle de douleur à la perte d'un ami. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment parler de douleur ou de souffrance en général. Bon. Ici, on en fait des idéal types, peut-être, pour la distinction, mais je pense qu'ils sont importants. La souffrance est donc un non-plaisir, une diminution de notre intégrité physique, mais aussi intellectuelle, psychologique. La souffrance, c'est un contenu psychologique. C'est un contenu de la conscience. L'expérience nous donne une donnée immédiate à la conscience, mais comment dire, immédiate de nos souffrances, mais... Comme le dit très bien Lévinas, c'est un malgré la conscience. C'est un inassumable. C'est pas possible d'être assumé par la conscience en général. Ça ne permet pas d'être compris, d'être assimilable. Comme le dit Ricoeur, la souffrance est toujours de trop, au fond. Elle est réfractaire à la synthèse. Il y a la synthèse kantienne, au fond, hein, l'activité synthétique kantienne, impossible. Elle est réfractaire à l'ordre. Il n'y a pas de sens. On ne peut pas la remettre dans un ordre, dans une harmonie. Général. C'est un trou permanent dans le vécu, au fond. C'est donc un refus, c'est une révulsion. La souffrance est donc ce qui, dans la conscience, dérange l'ordre, par excellence. Elle est même ce dérangement même. Et Job, quand il exprime ça, c'est tout le temps qu'il dit ça. C'est une structure contradictoire. Et on est obligé de se vivre comme victime. On ne peut pas se vivre comme quelqu'un qui maîtrise et la douleur et la souffrance, en général. Alors Simone Weil, elle propose, elle, d'appeler malheur, donc troisième terme, une souffrance qui serait, elle, plutôt longue, très fréquente, un état violent qui enchaînerait l'âme. Donc il y a bien une conjonction de fait entre l'âme et le corps, dans l'idée de malheur, et puis elle rajoute un troisième point, souffrance du corps, souffrance de l'âme, bien sûr, elle rajoute un troisième point qui est important, un facteur social. Il y a une déchéance sociale aussi. C'est ça qui fait souffrir. Et on voit bien Job, et on en parlera plutôt dans la troisième séance, Job est celui qui va souffrir de cette déchéance sociale vis-à-vis des autres, vis-à-vis du collectif. Ce sera la théorie du bouc émissaire, du paria, de tout ce qu'on veut, on en reparlera. En tout cas, c'est ça. Donc, souffrance, le malheur, c'est la passivité. On subit. On ne prend pas prise, on ne prend pas conscience, au fond, de ça. C'est ça l'idée, c'est que la sensibilité elle-même n'y est que pure vulnérabilité, au fond. C'est une épreuve encore plus passive que toute expérience. C'est un mal, c'est ça. C'est un pâtir, le souffrir, c'est un pâtir pur, au fond. On est déchiré cruellement, violemment, sans pouvoir prise, sans prise là-dessus. C'est pour ça que la souffrance est inutile, que la souffrance est pour rien, au fond, qu'elle n'a pas de sens en tant que telle. On va voir. Il y a un sens à la pensée, il y a un sens à penser le souffrant, mais il n'y a pas de sens à la souffrance en général ni à la douleur. Le son qui sort tout de suite, c'est le cri. Le cri, c'est ce qui répond au comment, pas au pourquoi, mais au comment. Comment j'ai mal, on crie précisément. C'est le comment qui devient contenu au fond. Et on a un refus de se donner au monde, un refus de se donner aux autres, un refus de se donner même à soi, au je pensant, on va dire. C'est ça l'idée. La douleur, donc, doit être définie comme, et même chose pour la souffrance, comme faiblesse, ce que la conscience ne supporte pas. La douleur, c'est le premier phénomène du mal. C'est pour ça qu'il faut partir de là. C'est le moment où rien ne s'arrange. Car même si on prend conscience de la douleur, ça ne change rien. Ça ne la supprime pas, précisément. Alors, cette phénoménologie, il faut y procéder. Même s'il y a peut-être une obscénité du langage, même si effectivement on est loin de la concrétude douloureuse, qu'on essaie de penser sur quelque chose qui normalement ne pense pas précisément, ça quand même nous permet de penser les effets de la souffrance pour l'être humain. Et puis ça nous permet peut-être d'y apporter des réponses, de définir ce qui est premier dans même un agir éthique ou un agir politique, avant de dire autre chose. Donc il faut en passer par cette phénoménologie pour comprendre ce qui s'y joue. Qu'est-ce qui est affecté par la souffrance? Qu'est-ce qui est affecté dans l'homme? Qu'est-ce qui est affecté dans ce qui n'est pas simplement une victime, mais en tout cas dans celui qui souffre? Ce qui est affecté, c'est d'abord le rapport soi-autrui. C'est d'abord ça la première chose. Ce qui est atteint dans le souffrir, c'est notre intentionnalité, ce que Husserl disait, l'idée de viser quelque chose dans le monde, viser quelque chose d'autre que soi. Précisément, cette intentionnalité, cette capacité à viser autre chose, est détruite. L'effacement du monde comme horizon de représentation. Le monde nous apparaît plus comme habitable, mais il est dépeuplé, et le soi se rejette sur lui-même. Ici, pour Job, c'est très visible. Dans tout le texte, précisément, Job n'est qu'un corps, ne devient plus qu'un corps, qui commence à souffrir. Même quand son discours devient métaphysique, il reste un corps. Et qu'est-ce qu'il découvre? L'incommensurabilité de sa distance avec tout le monde. Avec son Dieu, bien sûr, mais avec tous ceux qui l'entourent en général. Ses prétendus amis, sa femme, etc. C'est une crise de la mesure. C'est la mesure de toutes les valeurs qui est brisée à ce moment-là. Il y a un incommensurable général. C'est le manque de toute mesure. Et c'est le manque de toute mesure même entre du corps à corps qui va commencer entre Job et son Dieu. Ou Job et Satan, ou Job et d'autres, etc. Dieu et l'homme s'y affrontent. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner une nouvelle cosmogonie, c'est-à-dire une nouvelle mesure du monde. C'est-à-dire que l'événement, au fond, bouleverse ce qu'on va appeler l'ontologie. Le régime de l'être des choses n'est plus le même. Et le XXe siècle, c'est ça. C'est qu'on ne peut plus penser l'être ou le régime de l'être des choses de la même manière, au fond. L'idée, elle est là. On a un être nouveau du monde qui a été créé à ce moment-là. Et la question qui s'ouvre à ce moment-là, c'est s'il n'y a plus de mesure, si à partir de cet événement-là, il n'y a plus de mesure, où est le vrai? S'il n'y a plus logique, où est l'appréhension du vrai face à ça? Quelle est la teneur de l'être? Quels sont les repères? Quelles sont les boussoles qu'on a? Dans la souffrance, tous les repères ont explosé. Vous voyez ça dans les films, par exemple, de Haneke, un livre de Funny Games, par exemple, où deux adolescents viennent terroriser une famille qui est en vacances, etc. On voit que la personnalité se désagrège complètement, qu'il n'y a plus de ressources en général. Et je crois que tout l'art du XXe siècle, là aussi, après 1945, il y a eu une belle exposition à Lyon là-dessus, on voit, c'est l'absence des mesures, l'absence des repères. C'est l'entrée dans l'abstraction, mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi le fait qu'on ne peut plus représenter les choses, évidemment, comme elles étaient avant, etc. Cette idée de démesure, elle nous empêche le retour à l'idée d'ordre, à l'idée de justice même, au fond. Il y a divorce avec la structure du monde. C'est l'idée d'injustifiable. Elle est injustifiable, personne ne peut pouvoir justifier cela. La démesure, c'est l'absence des rapports, c'est l'excès précisément, et donc une révolte contre l'être en général, contre l'être des choses. La source de cette indignation n'est autre que la souffrance. Celui qui s'indigne contre l'être ou l'ordre des choses, c'est que ça vient d'une souffrance, il y a une souffrance au départ. Et simultanément, une exigence de justification. On va voir que chez Job, ça aura lieu précisément. Alors Job, la démesure, va quand même faire naître une grande narration dramatique. C'est pour ça que ce texte a peut-être été un des rocs sur lesquels ont investi un certain nombre d'auteurs. Parce qu'il continue une narration, il propose une narration dramatique. Une narration qui va faire naître l'idée de résistance, au fond. La résistance va pouvoir s'exprimer de multiples manières là-dessus. Alors on voit bien que dans cette douleur immense, dans cette souffrance totale de Job, la seule chose qui reste, c'est la vie nue. C'est sa vie, d'ailleurs. Dieu le dit au départ. Il dit, tu feras avec Satan, il lui dit ça. Il lui dit, tu touches à ses os, touches à sa chair, etc. Il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. C'est-à-dire qu'il est réduit à l'état animal, avec l'idée que, normalement, on n'en sort pas. Mais là, précisément, il va sortir. Je note que d'ailleurs, il n'y a pas de pire état que celui-là. On l'a bien vu avec les livres de Primo Levi dans les camps de concentration, ce que les Allemands appelaient, ce que les rescapés aussi appelaient entre eux le musulmanaire, le musulman, c'était cet être qui était ni vivant ni mort, qui était dans cette zone grise, qu'on laissait comme ça, qui évidemment allait y laisser sa peau. C'est les états légumineux aussi des gens dans qu'on laisse dans nos mouroirs, dans les hospices, etc. C'est ça. C'est en vie, mais quelle vie de quelle qualité les fêtes, etc. Alors, problème du rapport soi-autrui, aussi intensification du rapport à autrui, ce que montre bien le livre de Job dans la souffrance. Ça se passe sur le mode négatif, c'est une crise de l'altérité quand on est dans la souffrance. Le terme, évidemment, c'est la solitude. Le souffrant, c'est toujours l'insubstituable, celui dont on ne peut pas prendre la place. Il est unique dans sa souffrance. Son expérience est incommunicable. C'est-à-dire que quoi ? L'autre ne peut pas me comprendre. L'autre ne peut pas vraiment m'aider. Il y a une solitude du souffrir. Et il est ensuite que nous aussi, souvent, nous soumettons les souffrances de l'autre à des routines d'euphémisation. Quand on généralise tout, alors qu'en fait la souffrance est singulière, quand on réduit le personnel à l'impersonnel, quand on réduit le drame singulier à un fait divers, etc. Tout ça, c'est une espèce d'économie de pensée, une économie d'affect, bref, une économie de compréhension, on ne comprend rien face à ça. Et puis, il y a aussi un degré de souffrance qui peut être plus intense, où l'autre n'est pas seulement celui avec qui je ne communique pas, mais l'autre est mon ennemi, précisément. On le voit bien aussi dans Job. Mes frères m'ont trahi. Il ne cesse de le répéter. Par exemple, 6, 15, vous l'avez. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le cours des torrents qui débordent. Une espèce de solitude. Et en plus, à penser que les autres sont nos adversaires, en tout cas nos ennemis. Et puis, il y a encore un degré plus grand de virulence, de cette violence, c'est le fantasme d'être élu pour la souffrance aussi. La malédiction. Je suis maudit. Job est celui qui aimait ça. C'est l'élection à l'envers, hein, précisément. Malélection, au fond. C'est ici, d'ailleurs, que surgit la question « Pourquoi moi ?» C'est lorsqu'on a l'impression d'être maudit qu'on dit « Pourquoi moi ? Pourquoi mon enfant ?» alors que précisément, j'ai rien fait, enfin, que je suis innocent, etc. Oui, c'est aussi narcissique. C'est-à-dire qu'on croit que tout ça nous est destiné, précisément. Et en même temps, on voit l'immense souffrance face à ça. Job, c'est celui qui nous permet de lire tous ces degrés de la souffrance qui ont pu être éprouvés, j'ai envie de dire, au XXe siècle, en général, et de cette manière. Évidemment, ils se sont loin de tous, et bien sûr, encore plus de son Dieu dans ce cas-là. Altération vis-à-vis d'autrui, mais aussi altération vis-à-vis de soi, qu'on voit très bien dans ce texte, c'est que le malheur imprime un dégoût de soi, une sensation de culpabilité, une sensation de souillure. Même chez l'innocent. Job, il n'arrive pas à y croire, au fond, tout ça. Il n'entend plus le témoignage de sa propre conscience. Il ne sait même plus quoi croire, au fond. C'est ça, l'idée. C'est la souffrance aussi qu'on s'inflige à soi-même. Celle que vous trouvez chez Freud, dans un texte comme « Deuil et mélancolie », par exemple. L'individu qui a perdu, qui est en deuil, comme il est incapable de lâcher prise, il s'incrimine des choses, précisément. Et puis, c'est ce qu'a très bien vu aussi Ricoeur, c'est l'impuissance à s'estimer soi-même dans la souffrance. Vous savez, pour Ricoeur, l'estime de soi est quelque chose de très important, c'est ce qui nous permet d'agir dans la vie en général. L'estime de soi, ça veut dire être capable d'estimer les choses, être capable de préférer une chose à une autre, etc. Là, au contraire, on n'est plus capable de ça, on se croit coupable. Et c'est la logique du bourreau même de nous faire croire qu'on est coupable de tout ça, et du coup qu'on l'est, de se croire puni. Il veut nous humilier de par nous-mêmes. C'est au fond nous-mêmes qui devons nous humilier dans le cas du bourreau en général. Et puis il est possible aussi que dans certaines souffrances, on arrive à l'état de dissociation. C'est-à-dire ça, c'est l'extrême souffrance. Trop de honte, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de pouvoir souffrir sa souffrance. Tellement on a honte de sa propre souffrance en général. C'est là qu'évidemment arrive le cri, la plainte, la lamentation, qui est le grand texte de Job là-dessus. C'est vrai que la plainte, la lamentation, ça peut conduire au délire de persécution, hein, en général, à la paranoïa, à avoir des ennemis partout, mais peut-être que ça a un sens précisément. Et puis il y a un troisième type de souffrance, non pas rapport aux autres, non pas rapport à soi, mais souffrance que, comment dire, que quelqu'un s'inflige à soi-même, mais au niveau de sa propre estime. Mais c'est-à-dire, par exemple pour Job, c'est sa passion de Dieu. C'est-à-dire que il a investi tout son désir dans Dieu, il est le juste d'entre les justes, il est toujours bien comporté au regard des commandements divins, il a mis tout son absolu, évidemment, à l'illusion succède la désillusion. Et son attente, évidemment, c'est que Dieu réponde à ça. Alors, évidemment, il va y répondre, c'est quand même la grande réponse de ce texte-là, mais il aurait pu ne pas y répondre, et évidemment, ça aurait été l'objet perdu d'ordre freudien, etc. Et puis, dernière implication du souffrir, c'est d'entraver l'action. La souffrance consiste dans une diminution de la puissance d'agir. Et cette diminution, elle se fait en trois registres. Là, je m'aiderai de certaines analyses de Ricoeur, et même si j'irai un petit peu plus loin. Première diminution, qu'on voit très bien aussi chez Job, d'abord la diminution dans les registres de la parole. Celui qui souffre, ça se passe que dans son visage, dans sa mimique, c'est la grimace, c'est l'incapacité à dire ce qui se passe. C'est ce qu'on peut pas. C'est les cris, c'est les larmes, etc. C'est une déchirure entre ce qu'on voudrait dire et l'impuissance à le dire, en général. Et en même temps, c'est à partir de là que va pouvoir venir la plainte. Il faut, malheureusement, peut-être, la souffrance pour que la plainte soit exhalée de soi et adressée à l'autre comme appel à l'aide. C'est toute l'idée aussi de la lamentation. La lamentation, linguistiquement, c'est original, c'est l'idée qu'il y a une émotion qui traverse. Elle conserve encore quelque chose du cri, la lamentation. Ce n'est pas le cri, c'est déjà un stade au-dessus. Ce n'est pas tout à fait la plainte, c'est au milieu. Le cri, c'est la souffrance elle-même. Là, ici, on extériorise aussi une intériorité vive et on essaye de trouver en tout cas un certain nombre de mots vis-à-vis de ça. C'est une volonté aussi de nier la souffrance ou de la supprimer sans y arriver. Diminution donc dans les registres de la parole, et l'impuissance à faire nous conduit simplement dans l'idée d'endurer. C'est tout. C'est exactement la question que se pose Job aussi face à ça. En 6:11, il nous dit « Ai-je donc assez de force pour attendre? Voué à une telle fin, à quoi bon patienter? Ma force est-elle celle du roc? Ma chair est-elle celle du bronze? Aurais-je pour appui le néant? Et tout secours n'a-t-il pas fui loin de moi ?» Donc on a bien cette idée de peut-être, ce sera d'ailleurs une des réponses possibles, mais on voit que ce sera la grande réponse de Job, mais pas seulement celle-là, la patience. On voit que la patience est valorisée ici. La patience, c'est quoi? C'est une affaire de désir, d'altérité, donc de temps, au fond. La patience, c'est ce qui est tenace, c'est ce qui est têtu, etc. Elle ne s'arrête pas de vivre. C'est l'amour de la force de vie qu'on a en nous, précisément, c'est ça. Mais la patience, ce n'est pas quelque chose de passif. Une bonne patience, c'est celle qui doit s'indigner. Une patience, elle meurt quand elle ne sait plus contre quoi elle doit s'indigner, précisément. Et Job toujours sait contre qui s'indigner, en l'occurrence Dieu, mais pas seulement, aussi ce qui entoure et les explications qu'on lui donne de sa souffrance en général. Dans la souffrance, au fond, c'est ça, c'est l'idée de la perte d'un pouvoir sur quelque chose. Qu'est-ce que fait Job? Il prend un tesson pour se gratter, il s'installe parmi les cendres, sur son tas de fumier aussi, etc. C'est là où la personne se sent au pouvoir de, à la merci de. Il n'est rien, il ne peut rien faire, au fond. Il n'est plus un agissant, il est comme les autres. Il se sent donc la victime de quelque chose. Troisième forme, dans la fonction du récit, peut-être aussi il y a une possibilité là, de se raconter soi-même quelque chose sur sa vie pour trouver du sens à la chose, de ne pas être replié sur le simple instant. Job, on voit bien, est replié sur le simple instant. C'est là aussi où est sa souffrance. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. L'instant n'est plus qu'interruption du temps permanent, rupture de la durée. Vous savez, il y a des pages entières où il maudit son passé, il maudit sa naissance, son anniversaire, etc. Il aurait voulu ne pas naître. Il maudit la jeunesse en général. À quoi bon tout ça, précisément face à ça? Et puis, il y a bien sûr l'idée d'une poétique, en tout cas, de la souffrance. Dernier point, une fois qu'on a procédé à cette phénoménologie de la souffrance, de la douleur et du malheur, de voir qu'est-ce qu'elle empêche, qu'est-ce qu'elle affecte, peut-être que ce texte-là, en tout cas la reprise de ce texte-là, peut nous dire quand même, oui, mais la souffrance nous donne quand même à penser. C'est-à-dire que la souffrance du XXe siècle, allez lire le récit des victimes, allez lire leurs empêchements, leurs impossibilités, tout ce qui s'est passé, essayez d'en définir, vous voyez, la teneur, la texture de cette souffrance, qui est presque universelle, hein, qui n'a pas seulement eu lieu là, mais qui a peut-être eu lieu davantage, nous a donné beaucoup plus de choses, nous donne quand même à penser, ou en tout cas nous conduit à aller plus loin. Et c'est peut-être ça sa force. Premier point rapide, mais c'était l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure, il y a effectivement un nouveau statut ontologique. La souffrance a reformulé l'être du monde, pour le dire comme ça, d'une manière un peu large, et nous a obligé à redéfinir des questions qu'on va voir évidemment dans les séances suivantes aussi, mais face à ça. Alors là aussi, il y a deux voies qui peuvent s'ouvrir à cette question de la souffrance, de que faire de la souffrance, ou qu'est-ce qu'on peut en penser, comment on peut l'utiliser. Première réponse, soit on se résigne, soit on abdique. On a, à la fin du livre de Job, cette idée-là. J'arrête la plainte, j'arrête de me lamenter, j'ai trop souffert, c'est bon. Résignation, on retire sa plainte. On va voir que chez Job, il n'y a pas que ça. Hein, mais il y a eu cet aspect-là aussi. Je porte ma croix, au fond, j'accepte de le faire. Soit on retourne au néant, mais jamais Job, par exemple, choisit la voie du suicide. Il lui est proposé, etc. Il refuse cette idée-là. Donc, il n'y aura pas ce néant, etc. Mais ça pourrait être une solution, bien sûr. Il a déjà maudit assez de choses. Il regrette d'être lui-même, d'être né en tant que tel, etc. Mais, en tout cas, ce n'est pas ça. Soit, au contraire, il y a un sens à la souffrance. En tout cas, il y a un sens, soit peut-être pour l'accepter, soit au contraire, pour réclamer et la subvertir. Mais il faut voir les deux points. Premier point que je vais voir rapidement, montrer qu'on peut très bien la supporter, que la souffrance n'est pas très grave, etc. Qu'il y a rationalité d'une certaine souffrance. Beaucoup de réponses qui ont été faites là-dessus, que la souffrance est finalement utile pour plusieurs choses. Alors, quels sont les arguments avancés généralement? Si on veut obtenir quelque chose, il faut peiner, il faut souffrir, souffrance mérite salaire, bon, etc. Il faut souffrir aussi pour réparer ses fautes. C'est le rôle de la justice. Il y a un rôle psychologique de la vengeance face à ça. Trois, la souffrance est un risque. Il faut courir pour être intelligent, sensible, etc. Il faut bien souffrir pour apprendre à connaître les choses. Deux, c'est le moyen en vue d'une fin. On peut très bien accepter une certaine souffrance en vue d'un moindre mal. Hein. C'est le mal conditionnel, etc. Quatre, c'est un système d'alarme biologique. Si la douleur fait partie de la sensibilité, ça renseigne sur nos limites, ça nous préserve d'un plus grand mal. Il faut bien se heurter à ce qui nous contrarie dans la vie, etc. C'est la vie qui donne du sens à la douleur, au fond, etc. La réponse de Leibniz, hein, je souffre, donc Dieu est là, il est là pour nous faire vivre, etc. Autre réponse encore, elle tremperait le caractère de l'individu, c'est comme ça qu'on deviendrait plus fort, bien sûr. Dieu nous pose aussi des défis à l'âme humaine. Lisez Baudelaire, Teilhard de Chardin, Jean Onimus, etc. C'est nécessaire pour que l'homme puisse se dépasser. Ça a une utilité sociale, ça éveille le groupe. S'il n'y avait pas des souffrants, on ne serait pas solidaires, etc. Bon, par exemple. Ça a une nécessité pédagogique, il y a un rôle de l'épreuve, sinon on va régresser dans l'enfance, il faut bien qu'on accepte le principe de réalité, etc. Et voire même dans des cas extrêmes, le masochisme, la douleur, ça fait du bien. Donc, pourquoi pas, il y en a qui cherchent la douleur à tout prix. Donc je note souvent que c'est une douleur, comment dire, quand on lit les études sur le sadomasochisme, une douleur, comment dire, extrêmement bien, comment dire, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui est bien organisé. Par contre, si on enlève le dispositif, la mise en scène, on y va vraiment, la personne est moins contente généralement. Donc, on voit bien que là aussi, c'est une certaine définition, mais... Bon, ça existe aussi, hein, on voit bien, etc. Que pensez-vous de ça? Ça pose d'énormes problèmes, ce type de réponse. Pourquoi? C'est faux. Parce que ce n'est pas les douleurs qui grandissent l'homme. Mais au contraire, c'est la force qui est en l'homme qui lui permet de le surmonter, qui le fait grandir. Mais ce n'est pas les douleurs en tant que telles. On pourrait très bien envisager une éducation sans grande douleur en général. Deuxième chose, vu tout ce qu'on a à souffrir, on pourrait penser qu'on est devenu drôlement sage, drôlement épanoui, si on comptait toutes les épreuves qu'on a surmontées. Oh, ça ne paraît pas être le cas, précisément. Troisième chose, il y a des douleurs qui terrassent, il y a des douleurs qui écrasent, précisément. Et chacun est un cas singulier vis-à-vis de ça. Donc, difficile de désigner les doses de douleurs qu'il faudrait donner à chacun pour qu'il devienne plus fort. On voit très bien l'incapacité à définir un critère, même valable, de tout ça. Et puis, quatrième chose, il y a des douleurs et des souffrances irrécupérables, irrecyclables, impossible de leur trouver un sens, précisément. Quand vous lisez Kierkegaard, Dostoïevski, la douleur d'un enfant, la souffrance des enfants, n'a pas de sens, précisément. On en reparlera la semaine prochaine, par rapport à l'existence de Dieu, précisément. Nous ne faisons pas que mourir, nous disparaissons. Il y a des choses qu'on ne retrouve plus. Il y a des pans entiers de la vie, des gens qu'on aime, etc., qui meurent. Ils disparaissent, il ne reste plus rien d'eux, précisément. On n'a plus rien d'eux. Et on n'a pas de consolation vis-à-vis de ça, précisément. Et souvent, il y a une difficulté, notamment après le XXe siècle, à léguer des choses, à avoir hérité même de certaines choses, etc. Il y a de l'irréparable, il y a de l'irréversible et il y a de l'injustifiable. On y reviendra aussi dans d'autres choses. Et puis, autre chose, cependant, la souffrance peut quand même nous faire penser. Même si on ne peut pas lui trouver un sens avec les arguments que je vous ai exprimés, en tout cas pas à mon sens, en tout cas on en a. La souffrance n'a pas de sens, mais l'homme souffrant en a. Et c'est peut-être ça qui est intéressant avec le livre de Job. Surtout la patience, on a vu, et la patience qui résiste, précisément. Qu'est-ce que nous dit Job, notamment dans son troisième grand chapitre, si on veut ? Souffrir, c'est résister. C'est insister quand même dans l'ontologie. Il n'est pas stoïcien, il ne se résigne pas à la fatalité des choses. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre éthique et ontologie, entre sa morale, sa manière de se conduire et l'être des choses. Il y a un dépassement de l'être, précisément. Et il faut aller chercher dans l'analyse de la souffrance des clés pour résister, pour continuer à croire, peut-être, on verra ça la semaine prochaine, pour continuer à aimer. Précisément. Chez Job, il y a une manière d'éprouver le caractère insensé de la vie, mais aussi de refuser ce caractère insensé. Et en tout cas, de ne pas en faire un destin, d'en faire autre chose. Et il y a, je pense, une force en tout cas chez lui. Deuxième chose, la douleur est aussi une clé qui ouvre sur la communauté éthique, précisément. Je vais le dire autrement. Aujourd'hui, il y a tout un discours qui tend à nier les souffrances sociales. Il y a aussi d'autres discours, hein, mais il y a un discours qui tend à nier les souffrances sociales, qui est contre la victime, le chêne victimaire, il n'y a rien pire que la victime, l'homme des droits de l'homme, c'est affreux, etc. Et tout. Ils ont tous envie d'être secourus, ils ont besoin de l'État-providence, c'est absolument affreux, etc. Avec culpabilité du chômeur, honte, sur, etc., etc. On voit bien ce type de discours général. Soit même, au contraire, on pense même que la misère n'est pas très porteuse, la pauvreté n'est pas très porteuse, donc on ne va pas s'intéresser à tout ça, il n'y a pas une dynamique de transformation sociale, donc on ne va pas s'y intéresser, etc. On a aussi le côté foucaldien de Foucault, etc., c'est-à-dire que ouais, tout ça, c'est un biopouvoir qui s'occupe des populations, donc ils en font des victimes, des souffrants, mais on n'est pas si souffrant que ça, etc., etc. Et puis l'idée aussi qu'au fond, on oppose la responsabilité individuelle, bouge-toi, tu changeras ta condition, etc. C'est aussi tout le thème de la critique de la politique de la pitié, tous les termes, tous les discours contre les mouvements humanitaires en général, ils sont fondés, mais quand même, quand on regarde derrière, il y a un problème. Bref, on voit bien ce discours-là. C'est un discours aussi, quelquefois, antidémocratique. Parce que précisément, ce qui fait la force de la démocratie, et Tocqueville l'a vu, c'est aussi cette compassion que l'égal a pour l'égal, qu'on a les uns pour les autres. C'est ça la force. La douleur, c'est le fondement démocratique de la société politique. La peur, c'est le fondement dictatorial. C'est le fondement autoritaire. C'est celui qui est né avec Hobbes. La nouveauté, j'ai envie de dire presque peut-être du XXe siècle, peut-être ce qui va venir après, c'est ça en tout cas, c'est l'ouverture de la pitié en général et de la plainte. Je termine juste là-dessus. La première chose que la souffrance interroge, c'est avec la plainte. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi mon enfant ? Tout ça va se dérouler dans le cadre d'une justification, d'une demande de sens. C'est là la dimension éthique et politique de la souffrance. La souffrance n'est plus sans objet au moment où elle passe à l'état de plainte. Elle n'est pas ressentie, mais elle est cette fois jugée comme figure du mal. Elle n'est pas sans pourquoi. Et il y a ici, évidemment, une inquiétude. C'est que le malheur est peut-être un a priori, un préalable nécessaire à la question du pourquoi. Quand tout va bien, il n'y a pas de pourquoi. Et peut-être qu'effectivement, c'est l'autre côté où il y a du pourquoi. C'est aussi l'idée que tout mal n'est pas un mal de faute, qu'il n'y a pas de mal moral, mais qu'il y a un mal physique. On reviendra sur ces termes, etc. L'être victime, ce n'est pas l'être coupable. Et encore plus pour Job, dans ce texte-là précisément. On verra que Job va mettre à plat toutes les théories de la rétribution, tu l'as mérité, tu es puni, etc. C'est quelqu'un qui va effectivement rompre avec toutes les théodicées existantes. Autre chose que nous permet de penser la souffrance aussi, c'est que la souffrance appelle. Chaque individu souffrant pose à l'autre une question qui est un appel au fond, qui est un appel à l'aide, toujours. Dans le cri, dans le gémissement, bien sûr, il y a un réflexe, mais il y a plus que ça. Il y a une prière. Il y a un aspect interhumain de la douleur. C'est ce qui fait communauté. Il y a un signe de socialité. Il y a un sens à tout ça. On peut en partie assumer la souffrance de l'autre. On ne peut pas tout à fait se substituer, mais on peut la partager. Et il y a un souffrir avec qui est impossible et qui en même temps peut aussi jouer. C'est d'ailleurs aussi ça qui pose problème pour les soignants en général, cette difficulté à souffrir avec alors qu'on est, on souffre pas tout à fait non plus avec. Mais c'est ça qui est bien, si sa propre souffrance est inassumable, celle de l'autre est assumable. Il y a là une structure anthropologique profonde qui nous a été apprise, dans le fond. On ne peut pas rester indifférent. Et c'est tout le thème de Lévinas, impossible précisément, c'est la source de la responsabilité pour l'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'autre souffrant qui nous rend responsables de lui. C'est la source de la socialité même. C'est l'amour de l'autre ou la compassion. C'est sa vulnérabilité qui nous ouvre sur cela. Et à partir de la douleur, ça ouvre sur la médication, sur l'aide en général. Et c'est ça, chez Lévinas aussi, l'événement de la transcendance. Dieu ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais il va être là dans la présence du souffrant permanent. La prière, c'est aussi un besoin d'analgésie, d'antalgie, l'espoir d'être consolé, d'obtenir un ajournement de la mort, etc. Il faut savoir doser, bien sûr, et c'est tout un art, mais en tout cas, l'idée que c'est dans cette conscience de cette obligation inévitable, c'est peut-être là d'ailleurs qu'on pourra, on verra la semaine prochaine, sauver l'idée de Dieu. C'est peut-être là qu'on est le plus proche de Dieu, au fond, etc. Et qu'on pourra peut-être faire encore confiance dans une théodicée, même si on verra que ça sera devenu difficile. Dernière chose, et c'est terminé là, la douleur de l'autre est scandaleuse, inutile. Mais ma propre douleur, en tout cas, peut avoir un sens. À condition qu'elle soit aussi souffrance pour l'autre, sacrifice. La pitié, elle est là. Il y a le sentiment de pitié, C'est un grand sentiment. Et puis, il y a le passage à la sollicitude, au fond. C'est-à-dire l'aide, la présence, être là, au fond, quand l'autre souffre. Souffrir pour l'autre, réduire la souffrance de l'autre. C'est ça qui atteste de ma dignité humaine. La dignité humaine, ce n'est pas simplement persévérer dans mon être à moi, mais c'est précisément souffrir pour l'autre. L'autre qui, en fait, ne met rien, si on veut bien le voir, en général. C'est ça, c'est là le moment où il bouleverse l'ontologie. Et on le verra dans la figure du juste, et dans d'autres figures, etc. C'est là où on donne du sens à l'être, où on donne du sens à l'ordre du monde, en général. Compatir la souffrance de l'autre, c'est un grand événement humain, ontologique, général. C'est un signe humain, c'est pas un signe animal, en plus, on le sait. C'est le commencement de l'amour, d'une humanité qui sera difficile, qui n'est jamais de tout repos, c'est ça aussi l'idée. Mais en tout cas, je pense que c'est à partir de là qu'on pourra penser la communauté des ébranlés, la solidarité des ébranlés dont Patočka parlait dans ses derniers livres. Bien, je m'arrête là, j'ai un petit peu dépassé le temps. Voilà.